Bonjour à tous, bonjour à toutes. Content de vous revoir, je suis vraiment heureux d'être là et c'est tellement bon de louer le Seigneur ensemble. Vous savez, je rejoins ce que dit Hélo. Ma chère et tendre, c'est qu'il y a des choses que l'on sait. Je vous prends juste un autre verset là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu de vous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Jésus a dit là où deux ou trois? Pourquoi il n'a pas dit que quand tu es seul, la présence de Dieu se manifeste et bien sûr qu'elle vient aussi? Mais il y a une puissance, il y a quelque chose de particulier lorsqu'on est deux ou trois. Et quand on s'assemble comme ça, à, je ne sais pas, peut-être 120 ou 150, il y a quelque chose de particulier, de louer le Seigneur ensemble, d'adorer Dieu ensemble, de chercher à mieux le connaître ensemble. On se réunit, pour ceux qui ne savent pas encore, les mardis matins et les jeudis matins à 6h30 du matin jusqu'à 7h avec des intercesseurs. Mais vous êtes tous invités, on prie ensemble. Pourquoi on ne peut pas juste prier chez nous à 6h30 et c'est super? Mais ensemble, quand on prie sur un thème ensemble, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand des intercesseurs se tiennent, il y a la brèche, prie pour un sujet particulier, on sait que dans les lieux célestes et sur cette terre, il y a des choses qui se passent. Alors je vous encourage, frères et sœurs, si vous êtes là peut-être pour la première fois, ne négligez pas l'église locale, ne négligez pas le groupe, parce que Jésus, c'est lui qui a décidé de bâtir son église. C'est pas nous, c'est pas vous, personne n'a décidé un jour de dire tiens, pourquoi pas créer l'église. C'est Jésus, c'était dans son plan, dans le plan du Père, que l'Église puisse briller sur cette terre. Ne négligeons pas l'Église, les amis, mais entretenons-nous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à la gloire de Dieu. Continuons d'intercéder, de prier ensemble. L'Église, elle est belle. Et vous savez que Jésus ne viendra pas chercher des individus, il viendra chercher son Église. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Même nous, en tant qu'hommes, nous sommes l'épouse ensemble. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et il viendra chercher cette église, donc comme quoi l'église c'est vraiment important. Donc continuons de persévérer dans nos relations. Et justement ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet, alors c'est pas tous les jours comme ça, mais d'une révélation que j'ai eue à nouveau sur un sujet, et ça rejoint tout ce qui a été dit, chanté, proclamé ce matin, donc c'est juste magnifique sur un thème que tout le monde connaît. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie, je pense que tu connais ce thème. Et pourtant, ça revient à ce qu'Hélo a dit, peut-être la 41e fois ou la 101e fois, tchac, tu as une révélation supplémentaire. Et c'est ce que j'ai vécu. Puisque ce matin, je veux vous parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais avant ça, j'ai prié ce matin, durant la semaine et particulièrement hier soir. Et je disais, Seigneur, si tu as une parole de connaissance à donner, eh ben, donne-la-moi. Et j'ai reçu quelque chose, alors je me jette à l'eau. Est-ce que quelqu'un aurait mal au pied droit? Est-ce que quelqu'un ici dans l'assemblée a mal au pied droit? Est-ce que tu peux te lever, c'est possible? J'aimerais juste qu'on puisse prier pour toi. J'ai vraiment reçu que Dieu voulait te guérir et te restaurer et que ta guérison de ton pied droit, ça va être prophétique pour ta guérison corps, âme et esprit. Est-ce que je peux avoir deux frères et sœurs qui juste me posent les mains sur son pied droit? Seigneur, vraiment, au nom de Jésus, nous voulons proclamer la guérison sur ce pied. Nous ordonnons à toute douleur de partir maintenant au nom de Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur, qui guérit. Et Jésus, nous voulons proclamer que par tes meurtrissures, Laurent est guéri. Que son pied droit est guéri. Qu'il est guéri corps, âme et esprit, Seigneur. Je sens que tu m'as parlé, Seigneur, que prophétiquement, Seigneur, tu voulais venir guérir son cœur aussi, que tu voulais guérir tout son côté droit, Seigneur, qu'il y avait des choses qui étaient déséquilibrées dans sa vie, que tu voulais ramener l'équilibre, ramener une stabilité et ramener, Seigneur, la puissance de ton nom dans sa vie, Seigneur. Manifeste ta gloire dans la vie de Laurent, de Marie, de toute sa famille, au puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Wouh! Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh! Tu es tellement bon. Merci Seigneur. Vous savez, on a vraiment reçu, alors qu'on priait pour cette rentrée, Dieu nous a parlé de la réconciliation. Et vous savez que Mathieu et Emmanuel, pour ceux qui étaient là au week-end de rentrée, nous ont parlé brillamment de la réconciliation homme-femme et je crois aussi dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Et c'était il y a un moment fort, et en fait, on veut aborder, durant toute cette série de messages, tout ce que Dieu veut réconcilier dans plusieurs domaines, homme-femme. Et ce matin, si j'ai reçu la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu veut amener la réconciliation entre vous, entre nous et Dieu, par son Fils Jésus. Vous connaissez ce verset sûrement dans 2 Corinthiens 5:20 qui dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et parfois, on peut être en colère contre Dieu. Il y a comme une séparation avec Dieu parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et parfois, c'est parce qu'on n'a pas bien compris la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée en nous de l'amertume, ça crée en nous de la haine, de la colère. Et en fait, on associe tous nos maux, M-A-U-X, tous nos problèmes à Dieu. De dire, ben, Seigneur, si je vis ça, c'est à cause de toi. Et du coup, on se sépare de Dieu, de dire, mais à quoi bon suivre Dieu? À quoi bon lui faire confiance? Puisque je vis ça. Mais ce matin, Dieu veut mettre son amour, on l'a chanté, nous sommes enfants de Dieu. Il veut casser cette séparation, il a envoyé son fils Jésus par amour pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et comme je disais, parfois les révélations que nous avons, ce n'est pas forcément des choses nouvelles, ce n'est pas de dire « ah tiens !» Et parfois oui, mais parfois c'est juste des choses que nous connaissons, peut-être on est un peu trop familier, et d'un coup le Seigneur met en lumière ce que nous connaissions déjà, et waouh, il y a comme cette révélation. Et c'est ce que j'ai reçu alors que ça faisait plusieurs semaines que j'étais assailli par les accusations de l'ennemi. Vous savez, la tactique, une des tactiques numéro un de Satan, c'est de nous accuser. Et il est dit que Satan nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Jour et nuit, il dit, mais regarde, il a fait ça, regarde Jonathan ce qu'il a fait, regarde Olivier ce qu'il a fait. Il nous accuse. Et c'est écrit dans Apocalypse 12:10, Satan est présenté comme l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit nous accuse devant Dieu. Et il est très fort parce qu'il va souvent venir par des portes où on n'est pas bien établi dans notre identité de fils ou de fille, ou voilà, donc on n'est pas sûr. Et il vient et dit, mais tu crois vraiment que ça honore Dieu? Tu crois vraiment que tu es un bon chrétien en faisant ça? Et il nous accuse. Et personnellement, j'ai vécu ça il y a quelques semaines où je me sentais comme accusé par l'ennemi. Et qu'est-ce que l'accusation fait dans nos vies? C'est que d'un coup, on se sent honteux, on se sent rejeté, on se sent condamné, on se sent un moins que rien ou une moins que rien. On dit, mais en fait, mais moi, j'ai rien compris. En fait, je veux faire le bien, mais en fait, je fais le mal et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et en effet, peut-être qu'il y a des choses. Et en plus, vous avez remarqué que l'ennemi, souvent, comme il a fait pour Jésus lorsqu'il a tenté dans le désert, il va citer la parole ou il va citer des vérités. Tiens, mais tu vois, tu as un problème avec ça. Et c'est peut-être vrai. Peut-être que tu as un vrai problème avec ça. Mais ce qui est beau, c'est que la parole de Dieu dit aussi que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Quelle grâce de comprendre ça, et ça change tout, ça change tout. Comment pouvons-nous nous laisser encore piéger par l'ennemi si souvent, alors que nous savons dans Romains 8:1 qu'il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Et je crois, les amis, que ce matin nous avons besoin d'une nouvelle révélation de la grâce de Dieu, pour plus nous laisser piéger et nous laisser accuser par l'ennemi. Parce que quand on est accusé, on se met dehors, on se rejette, on passe complètement à côté de notre appel que le Seigneur a pour nous, parce qu'il nous a promis que nous étions appelés à porter du fruit, et du fruit en abondance, parce que sa vie coule en nous. Mais quand on se laisse accuser, quand on laisse ces accusations pénétrer notre cœur, on dit, mais en fait, j'ai plus rien à faire avec eux. Mais en fait, je ne suis pas digne. Non, mais en fait, ça ne sert à rien. Qui suis-je moi pour venir enseigner? Qui suis-je moi pour venir prêcher la bonne nouvelle alors que je suis tellement pas digne? Et du coup, l'ennemi, eh ben, essaye de nous faire passer à côté de notre appel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Il n'y a aucun péché. Il n'y a rien que tu aies fait ou que tu aies dit ou que tu n'aies pas fait qui t'exclut de la présence de Dieu et de sa grâce. Que personne ce matin, les amis, ne se prive de la grâce de Dieu. Elle est là pour chacun d'entre nous, peu importe ton passé, peu importe ce que nous avons fait ou pas fait. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour te relever et pour dire, tu es mon enfant. Et on le voit pour ceux qui sont parents, nos enfants, est-ce qu'ils font tout bien? Est-ce qu'ils font tout juste? Est-ce que tous les matins, ils nous parlent comme il faut? Pas toujours. Et pourtant, est-ce que notre amour pour eux change? Des fois, ils nous agacent. Des fois, ils nous énervent. Des fois, c'est dur. Des fois, on perd patience. On crie, on s'énerve. Et pourtant, qu'est-ce qu'on les aime. Hein, je pense qu'on vit tout, ça pour ceux qui sont parents quand on va les voir, enfin pour ceux qui ont encore des enfants petits, parce que je sais que quand ils sont adolescents, tout ça, c'est autre chose. je ne suis pas encore. Moi, ils sont encore petits, mais quand je vais les voir et puis qu'ils dorment, c'est 8h30, 9h, je les regarde, là, il n'y a plus un bruit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je les aime. Surtout quand ils dorment. Non, je... non, mais c'est tellement beau. Il y a un amour pour eux. Et en fait, on a du mal à comprendre que si nous, alors qu'on n'est pas parfait, alors qu'on a tellement de choses à changer, on sait aimer nos enfants et ressentir ça, mais à combien plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel nous aime et nous fait grâce. Et ce matin, c'est de ça que je veux parler. Parce que c'est clé pour nos vies, c'est clé pour notre Église. Je le crois. C'est par la grâce, Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce, les amis, je vais rappeler des basiques, mais c'est comme fondation, on a besoin, c'est des fondations dont on a besoin de réentendre et de se réapproprier et d'être visité à nouveau. Donc ouvrez vos cœurs ce matin. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est une faveur imméritée. Personne ici ne méritait la grâce de Dieu. Mais c'est par son amour qu'il nous a offert cette grâce, ce don gratuit. Alors ne te dis pas, oui, mais je n'ai pas fait assez si, je ne suis pas allé à l'église dimanche, ou j'ai fait... Peu importe ce que tu as fait ou pas fait, la Bible est claire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Comprends que tu as besoin de rien faire. Dieu t'a créé à son image et par amour pour toi, il t'a offert ce don gratuit de dire tu peux être sauvé en acceptant Jésus dans ta vie. La grâce de Dieu vient du grec charis ou charis qui signifie faveur, bénédiction, bonté, cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Et vous connaissez ces versets magnifiques qui disent que tout don parfait, tout cadeau excellent nous vient de Dieu, du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu peux être le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes sur cette terre, cela ne te sauve pas. Ce n'est qu'en Jésus-Christ, par sa grâce, que nous sommes sauvés, acceptés, sanctifiés. Et j'avais presque envie de chanter ce chant ce matin, alors qu'on parlait du sang, qu'on parlait que Dieu est saint, vous connaissez. C'est ton sang qui me purifie, c'est ton sang qui nous donne la vie, c'est ton sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Je suis blanc, blanc, plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, doux agneau immolé. Oui Seigneur, merci parce que c'est par ta grâce Seigneur. C'est toi qui nous rends plus blancs que la neige. Même si notre péché est rouge comme le cramoisi, tu le rends plus blanc que la neige. Quelle grâce Seigneur, quel cadeau immérité. On veut tous ce matin te dire encore merci pour ton sang qui a coulé à la croix et qui nous a purifiés de tout péché. Amen. Tous ont péché les amis, nous avons tous péché et nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On était tous privés de la gloire de Dieu, tous séparés de Dieu, mais par le don gratuit, parce que Jésus, on ne lui a pas pris sa vie, c'est lui qui a choisi librement, volontairement de donner sa vie à la croix alors que son sang a coulé. Comme on l'a chanté, il nous a rendus plus blancs que la neige. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité le troisième jour, alors Dieu enlève tes habits sales, tes habits souillés et il te revêt d'un habit nouveau, tout blanc, plus blanc que la neige, un habit de fête. Ésaïe 61, quand vous lisez, on connaît bien les premiers versets, mais plus loin, il est dit, je leur mettrai un vêtement de louange. On les appellera térébintes de la justice. Les térébintes, c'était des grands arbres. On les appellera en qui je prends mon plaisir. C'est ça, être gracié. C'est ça, être lavé. C'est que Dieu ne nous voit plus avec nos fautes, avec notre passé, mais il nous voit à travers le sacrifice de Jésus. Il dit ça, lui là, elle, c'est mon enfant, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils bien-aimé. C'est comme ça, les amis, que Dieu nous voit.
Et on a besoin de cette nouvelle révélation pour que quand l'ennemi va venir nous voir et dire « Regarde ce que tu as fait, stop, stop. Oui, j'ai fait ça. Mais Jésus a pris mes péchés à la croix. Il a tout pris, il a tout mis sous ses pieds. Et aujourd'hui, Dieu me voit plus blanc que la neige. » Et c'est ce que nous devons répondre aux accusations de l'ennemi. C'est terminé, les amis. Il est temps de prendre position, de ne plus se laisser avoir par le piège de l'ennemi, par ses accusations qui nous rongent depuis tant d'années. L'ennemi fait tout pour nous accuser et il peut continuer. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il m'a sauvé et qu'il m'a lavé. Et c'est ça qui nous tient debout, c'est ça qui nous permet d'avancer malgré nos erreurs. Sept fois le juste tombe, sept fois il se relève, tu retomberas. Mais la grâce de Dieu est là. Rappelez-vous les amis, et rappelons-nous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mois, années, tout au long de notre vie, que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et bien sûr, que, et j'en parle après, qu'il y a cette marche vers la sainteté, ça ne veut pas dire que ben, c'est la fête à... Voilà, il y a, et ben, parce que la grâce est là, ben, je pêche et je peux faire ce que je veux. Non, parce que plus tu connais Dieu, et plus tu as envie de lui ressembler. Plus tu connais Jésus, plus tu as envie de t'attacher à lui, puisque le peu de fois, ou toutes les fois, je pense qu'on peut tous le témoigner, où on est sans Dieu, où on vit notre vie par nos propres forces, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on blesse, c'est là qu'on se fait mal, c'est là que c'est difficile, et vite on dit « Oh Seigneur, au secours, je reviens vers toi parce que j'ai essayé par mes propres forces ». Mais quand on reste attaché à Christ, quand on reste attaché à sa parole, c'est là que nous portons du fruit, c'est là qu'on est bien, qu'on est saint. Corps, âme et esprit, c'est là qu'on sent revivre, qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, parce que Christ habite en nous. Amen. Donc je veux nous encourager, ne laissons plus l'ennemi gagner du terrain dans nos vies. Les amis, vous êtes plus blancs que la neige, nous sommes plus blancs que la neige par le sacrifice de Jésus. Et je le répète, si demain tu retombes dans ton combat, rappelle-toi que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai de dire, ben, il faut trois jours, ou t'es puni, ou une semaine, ou un an. De suite, la grâce de Dieu est là. Si tu, de tout ton cœur, tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il y a un autre verset qui dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. On n'est plus sous le joug de la loi, les amis. Et je veux vous le dire, que vous soyez libérés, c'est plus tu dois, taka, faucon, c'est terminé. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Et si elle est venue, ça veut dire que je marche, non par la peur du châtiment, de dire si je ne fais pas ça, il y a un coup de baguette, bam, qui va m'arriver. Non. Je marche comme un fils. Tu marches comme une fille, confiante que Dieu m'aime et que même si je tombe, même si je fais un faux pas, son amour est là, sa grâce est là pour me relever et pour me dire, allez mon enfant, courage, t'es tombé, mais relève-toi et continue ta marche. Je le répète et je m'excuse, parce que c'est important que ça rentre. L'ennemi va tout faire pour te faire dévier de la mission à laquelle il t'a appelé. Et si tu veux porter du fruit, si tu veux changer ce monde, si on veut changer ce monde, on a besoin d'être assis dans cette identité de fils et de fille et que la grâce de Dieu vraiment soit partout, en nous, autour de nous, qu'on ait compris ici et dans notre cœur que Dieu ne nous rejettera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais, peu importe ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. La grâce de Dieu est là. Alléluia, Seigneur. Vous savez, les temps de jeûne et prière, c'est souvent un temps où le Seigneur nous révèle pas mal de choses, notamment les péchés personnels, peut-être les péchés de nos églises ou de notre nation, dont nous avons besoin de nous repentir et d'être libérés. Et encore une fois, la grâce de Dieu, si vous voulez, c'est, comme je l'ai dit, elle vient quand on se repent à la croix, quand on dit « Seigneur, ben pardon parce que j'ai péché et je me repens et sa grâce est là ». Et on a eu, vous savez, ce temps extraordinaire de jeûne et prière, de 5 jours à la rentrée scolaire, et on aura encore, je vous le dis déjà, une semaine de jeûne et prière en janvier, avec cette fois-ci une nuit de louange, de prière, d'adoration, comme on a passé l'an dernier. C'était des moments extraordinaires. Je peux vous assurer que ne ratez ça sous aucun prétexte. C'est fabuleux. Pour ceux qui étaient là, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Et donc, dans ce temps de jeûne et prière qu'on a eu, c'était fort. On s'est réunis tous les matins à 6h30 pour prier, pour des sujets particuliers, mais ça a été aussi un temps, et je pense que plusieurs l'ont vécu aussi comme ça, des temps personnels, de alors que tu ne manges pas, ben d'un coup tu réalises que tu as plus de temps pour prier, pour chercher la face du Seigneur. Et Dieu a mis le doigt sur trois domaines dans ma vie où j'avais besoin de me repentir. Et j'ai vraiment eu à cœur d'être transparent et de vous les partager pour vous dire que j'ai beau être responsable d'église, Dieu aussi me parle et moi aussi j'ai besoin de me repentir et j'ai besoin d'avancer et que ça puisse vous encourager. Trois péchés que le Seigneur a mis en lumière dans ma vie. L'égoïsme. J'ai réalisé, les amis, combien je pouvais être tellement égoïste dans les petits domaines de ma vie. Pourtant, j'essaye d'être généreux, j'essaye de donner de mon temps, de mon argent, tout ça. Mais dans les petits détails, et vous verrez que souvent c'est révélateur. Pour moi, je me suis rendu compte, par exemple, quand je mange avec mes enfants, j'ai cette tendance à souvent me servir en premier. Souvent, et c'est même arrivé des fois que je me sers et presque je commence à manger. Et j'ai mes enfants qui sont là, qui me regardent. Et mon papa. Et d'un coup, ça m'est revenu comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, pardon. Et en fait, plein de petits domaines comme ça dans ma vie où j'ai réalisé qu'il y avait encore cette nature pécheresse en moi sur l'égoïsme. Et vraiment, Dieu, et encore une fois, quand il pointe ça, il dit pas, t'as vu, t'as fait ça, il n'est pas dans l'accusation. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, non pas pour nous faire du mal, mais pour qu'on soit libéré de ces péchés-là, de ces péchés qui nous cernent si facilement et qu'on puisse marcher dans la liberté. Donc, je ne l'ai pas du tout vécu comme une accusation, hein, mais d'un coup, j'ai dit, ah, Seigneur, et j'étais mal, et encore une fois, ce n'est pas un mal accusateur, mais plus de dire, mais oh, Seigneur, pardon, mais c'est vrai, c'est terrible de vouloir partager, être généreux, passer les autres en premier et de se rendre compte que la réalité dans notre quotidien sur plusieurs domaines, eh ben, c'est pas ça qui prime. Et donc, je me suis repenti pour mon égoïsme. Alors que le Seigneur, lui, s'est donné en sacrifice et il est venu sur terre pour servir et non pour être servi. Il nous a laissé un exemple à suivre en lavant les pieds de ses disciples. Et bien moi, je veux vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie aussi de laver les pieds de mes enfants. J'ai envie de laver les pieds de mes frères et sœurs. J'ai envie de servir plutôt que d'être servi. Je viens d'une culture orientale où, pour être honnête, souvent, quand on s'assoit à table, on aime bien être servi, ne pas bouger. Et puis, c'est comme ça, j'ai grandi dans cette culture-là. Et donc, je sens que c'est un peu, des fois, imprégné en moi, mais j'apprends. Je veux grandir dans le service, se servir les uns les autres. Parce que Jésus a dit, je vous laisse un exemple. Prenez exemple sur moi, faites de même à votre prochain. Je veux apprendre à vous servir, les amis. Deuxième péché que le Seigneur m'a mis en lumière, c'était la négligence. La négligence, c'est quoi? C'est que pourtant, on peut avoir de bons motifs, être partant, dire tiens, je vais faire ci, ça, 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 ça. La négligence, c'est que pris par le flot de notre vie, par tout ce qu'on a à faire, par notre flot de choses à penser, parfois, on peut être négligent sur certains domaines, pas qu'on a voulu mal faire, mais c'est comme si tu commences quelque chose et tu vas pas vraiment au bout. Et le Seigneur a pointé plusieurs domaines dans ma vie où je m'en rendais compte que j'étais pas allé vraiment au bout des choses. Et donc, je me suis repenti pour ça, de dire, Seigneur, je veux aller au bout des choses. Jésus, lui, il n'est pas allé qu'à moitié. Il est allé jusqu'au bout. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémané, il dit, Seigneur, Père, il priait, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais ta volonté et non la mienne. Il aurait pu choisir, il aurait pu s'arrêter au jardin. C'était quand même déjà pas mal. Tous les miracles qu'il avait fait, il avait enseigné ses disciples, il avait déjà fait des choses extraordinaires, mais il allait jusqu'au bout. Jusqu'à se donner en sacrifice pour vous et pour moi à la croix. Il allait jusqu'au bout. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, moi je vais aller aussi jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et la troisième chose ensuite, c'était la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est en fait de ne jamais être rassasié de ce que tu as. Apprendre le contentement dans le Seigneur. Ça veut dire que la cupidité, c'est très sournois, parce que je ne pense pas être un homme cupide, mais si vous voulez, c'est dans certains domaines où tu te rends compte que ben, tu as ça, et tu dis, ah ben tiens, ce serait peut-être bien d'avoir ça. J'ai une maison, ben tiens, ce serait peut-être d'avoir plus grand. J'ai une voiture, ce serait peut-être d'avoir plus grand. J'ai toujours plus grand. Et on sent que c'est inscrit peut-être, je ne sais pas si c'est que français, si c'est humain, mais on sent qu'il y a ce challenge et il y a ce défi dans nos vies de savoir apprendre le contentement dans le Seigneur. Et moi, je suis dans une saison, je suis transparent avec vous, où j'apprends à me contenter dans mon business, dans ma famille, dans ma vie, tout ça. Et là, je sens que je suis dans une saison où Dieu m'appelle à assainir et à affermir mes cordages. Je ne sais pas, c'est pour ceux qui connaissent ce verset, affermis tes cordages. Et plutôt que de toujours dire, ah tiens, et ça, et un projet, tiens, non, affermis tes cordages. Et donc, ça peut se transformer petit à petit dans cette cupidité où en fait, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Seigneur, merci pour ce que j'ai. Être dans la reconnaissance, apprendre à se réjouir peut-être des 5 pains et 2 poissons que tu as. Mais soyons dans le contentement. Apprenons ce contentement. Et ça ne veut pas dire esprit de pauvreté, ça ne veut pas dire ben, j'ai rien. Attention. Et ça ne veut pas dire non plus l'autre extrême avec l'évangile de prospérité. C'est, vous voyez, je pense qu'il y a un juste milieu parce que plusieurs ici, je pense, ont besoin peut-être d'être délivrés de cet esprit de pauvreté. Toujours rien, voilà. Non. C'est un Dieu qui nous offre plein de choses. Il est riche dans son amour. Il est riche dans ses bienfaits. Mais nous, je pense qu'on a ce rôle de dire, ben, Seigneur, que je sois, comme disait Paul, dans la disette, je te dirai merci. Que je sois, Seigneur, dans l'abondance, je vais être dans la reconnaissance. Et je pense que c'est un leitmotiv et que c'est même plus qu'un leitmotiv, je pense que c'est une hygiène de vie que nous devons apprendre. Savoir se réjouir de ce que Dieu nous donne et savoir être dans le contentement. Dans la satisfaction de dire, Seigneur, merci pour ce que j'ai. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Je reviens juste un peu avant. Jésus, il a su se satisfaire de ce qu'il avait. Il a dit, le Fils de l'homme, il a rien pour poser sa tête. Il a été... fouetté, il a été torturé, il a vécu des choses atroces. Mais on sentait qu'il était dans cette joie parfaite, juste d'être en relation avec le Père. Et parfois, Seigneur, pardon, parce qu'on peut se laisser aveugler par les choses de ce monde, par l'attrait de ce monde. Mais Colossiens 3.1 nous dit, recherchez les choses d'en haut. Là-haut, ni les voleurs viennent, ni la teigne, ni la rouille, rien peut venir, si vous voulez, tordre, ou toucher ce qui est dans le ciel. Alors les amis, recherchons les choses d'en haut. Et voilà un peu ce que Dieu a fait dans ma vie durant ce temps de jeûne et prière. J'ai pu me repentir et vous savez quoi, j'ai senti la grâce de Dieu me saisir, me relever au point que les accusations du diable aujourd'hui ne trouvent plus prise ou du moins beaucoup moins qu'avant. Quand l'ennemi vient de me dire « Regarde Olivier, t'es égoïste là, machin », je dis « Ben écoute, pour ça je me suis repenti. Le Seigneur m'a gracié, son sang a coulé pour mes péchés. Il m'a rendu plus blanc que la neige. Et aujourd'hui, ça n'a plus de prise. Donc, il peut venir m'accuser. Je sais que je suis libéré. Je sais que je suis gracié. Et quelle joie de savoir que mes péchés d'avant ne me coupent plus de ma relation avec le Père. Jésus est mort à la croix une bonne fois pour toutes. Et je suis gracié. Je suis gracié, accepté et aimé de lui. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. C'était pour vous encourager et pour vous expliquer un peu tout le cheminement pour que vous aussi, j'en suis sûr, vous l'avez déjà vécu, mais on puisse tous ensemble, toute notre communauté, rentrer dans cette joie et dans ce mystère extraordinaire de la grâce de Dieu. Je le répète ce matin, que personne, mon frère, ma sœur, ne te prive pas de la grâce de Dieu qui est là pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'avais à cœur de rétablir aussi une fausse vérité qui circule dans le monde, mais aussi dans notre Église. Je peux le sentir, je voulais parler du pardon. Vous savez, quand on parle de grâce, eh ben, c'est super de dire « Oui, ok, Jésus m'a gracié, mais c'est facile de le comprendre ici. » Mais parfois, c'est plus dur de le comprendre ici. Est-ce que vraiment aujourd'hui, tu te sens pardonné? Est-ce que vraiment aujourd'hui, tu as compris la profondeur du pardon pour tes péchés? Et il y a cette petite phrase, je ne sais pas si c'est un proverbe ou quoi, qui dit « Pardonner, ce n'est pas oublier ». Et ce que je veux vous dire, vous savez, je me laisse guider, hein, mais je sentais que Dieu voulait détruire cette phrase-là, ce proverbe-là. Alors quand je dis « ce n'est pas oublier », oui, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, parce qu'on a Dieu nous a donné une bonne mémoire. Mais si vous voulez, quand on dit « pardonner, ce n'est pas oublier », c'est « je ne veux pas oublier que j'en ai bavé, qu'il m'a fait ci, qu'il m'a fait ça ». Donc c'est, dans un sens, garder une petite rancœur, garder voilà, quelque chose, de dire ben, « alors lui, je peux t'assurer que je ne risque pas de m'asseoir à côté, parce que j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Pensez-vous que Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il garde le souvenir de nos fautes? Non. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. De même, quand Dieu nous fait la grâce de réellement pardonner, il nous fait la grâce de ne plus se souvenir des fautes de notre prochain. Quand je dis les fautes, c'est il nous fait la grâce de ne plus nous rappeler de cette colère qu'on a pu ressentir, de cette trahison qu'on a pu ressentir, de tous ces sentiments qui sont tout à fait humains, mais de dire « Ah, il y a comme cette blessure au fond de nous ». J'ai même la conviction qu'il nous fait la grâce de ne plus nous souvenir de la douleur que nous avons ressentie. C'est la puissance du pardon. Et cela, les amis, ne vient pas de nous, humainement, c'est impossible, impossible. Mais cela nous vient du Père des Lumières, nous vient de Dieu lui-même qui donne cette force de pardonner et qui prend notre colère, qui prend nos douleurs, qui prend ce qui est difficile et qui le jette au fond de la mer. Et j'ai un témoignage pour ça. Je réfléchissais dans ma vie, quand est-ce que j'étais le plus blessé? Et je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans... je vais vous parler d'un témoignage que j'ai vécu avant, bien sûr, de rencontrer la plus belle pour moi et ma chère et tendre. Ben voilà, j'ai eu une autre relation amoureuse avant de rencontrer Élodie. Et je pense que c'est le moment où j'ai été le plus blessé dans mon cœur. Puisque cette femme, sans rentrer dans les détails, m'a trahi et m'a trompé alors que je l'aimais. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles qu'on peut vivre. Et je ne crois pas avoir été autant blessé dans ma vie. Et pourtant, Dieu m'a donné la force, ça a pris du temps, de pardonner cette femme qui m'a fait du mal, qui m'a blessé alors que moi j'avais mis tout mon cœur, toute mon énergie, tout, voilà, quand on est jeune, je me souviens, j'avais 18 ans, ben voilà, j'étais tout feu, tout flamme, et pour moi, je parlais mariage, tout ça, et ça avait été très, très douloureux. Mais Dieu, au fil de plusieurs mois et années, m'a donné cette force de pardonner. De pardonner, vous savez, et ça prend plusieurs étapes. Au début, il y a la colère, il y a la compréhension, puis petit à petit, tu sens que Dieu te prend par la main et te donne la force de pardonner. Et au point que j'ai pardonné, que j'ai commencé même à la bénir, à prier pour sa future famille, prier pour tout ça. Et j'ai senti que les offenses que j'ai pu ressentir, que toute cette douleur que j'ai pu ressentir ne m'atteignait plus. Et il s'est trouvé que plusieurs années après, sa sœur s'est mariée. Et je suis toujours très ami avec sa sœur. Et donc, je l'ai revue. Et je me souviens que quand je l'ai revue, et ben en fait, j'avais de la compassion pour elle. Je ne ressentais plus, si vous voulez, cette douleur, cette amertume, cette colère, tous les mots qu'on peut vivre, toutes ces expériences qu'on peut vivre, mais je sentais plutôt de l'amour fraternel pour elle, dire ben, « Seigneur, je la bénis. Je bénis son mari, je bénis ses enfants. » Et vraiment, j'ai senti que Dieu avait fait un travail dans mon cœur, si vous voulez, où, oui, j'ai pas oublié, je me souviens, mais je me souviens plus franchement de cette douleur et de ce que je pouvais ressentir. C'est très lointain, mais Dieu a fait cette grâce de m'enlever tout ce qui était nocif dans mon cœur. Et c'est juste pour illustrer ce que la puissance du pardon. Dieu peut nous donner la force de pardonner. Ça prend du temps. Et on y reviendra, c'est comme une spirale parfois, on va de plus en plus profond. Mais Dieu nous fait ce cadeau de pouvoir pardonner librement. Et c'est ce qu'il veut faire dans nos vies encore aujourd'hui. Et un autre témoignage qui ne me concerne pas, je pense que vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom, qui a vécu dans un camp de concentration avec sa sœur Betty ou Betsy. Sa sœur est décédée dans le camp de concentration et Dieu l'a encouragée, après la guerre, à parler sur le pardon, à enseigner sur le pardon. Et qu'est-ce qui se passe un jour dans une de ses conférences? Il y a son geôlier, il y a son gardien, celui qui lui a fait du mal à elle et à sa sœur, qui vient et qui dit « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Et je vais juste le lire parce que les mots sont très très forts. C'était dans une réunion d'église à Munich que je l'ai vu. L'ancien agent du SS qui avait servi comme gardien devant la porte de douche au centre de traitement à Ravensbrück. Il était le premier des geôliers que j'avais vu depuis ce temps. Et soudainement, c'était tout revenu, la salle pleine d'hommes moqueurs, les tas de linge, le visage de Betsy, ma sœur, blanchie de douleur. Il s'est approché pendant que l'église se vidait, souriant et s'inclinant. « Je suis tellement reconnaissant pour votre message, » dit-il. « Pensez que, comme vous le dites, il m'a lavé de tous mes péchés. » Il avait tendu sa main pour serrer la mienne. Et moi qui prêchais si souvent aux gens sur le besoin de pardonner, j'ai gardé ma main à mes côtés. Même tandis que les pensées de colère et de vengeance bouillonnaient en moi, je voyais là le péché. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Et est-ce que j'allais demander plus que ça? Seigneur Jésus, j'ai prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire, j'ai lutté pour lever ma main, je ne pouvais pas. Je ne sentais rien, ni la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Et donc encore une fois, j'ai fait une prière silencieuse. Jésus, je ne suis pas capable de lui pardonner, accorde-moi ton pardon. Et en lui prenant la main, quelque chose la plus incroyable a eu lieu. De mon épaule, tout au long de mon bras et à travers ma main, un courant semblait passer de moi à lui, tandis que de mon cœur a surgi un amour pour cet inconnu qui m'a presque bouleversé. Ainsi, j'ai appris que ce n'est pas notre pardon, pas plus que notre bonté, dont la guérison du monde dépend, mais du sien. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il donne ensemble, avec la commande, l'amour même. Waouh ! Quel témoignage d'amour et de pardon. Pardonner, faire grâce à quelqu'un est un cadeau de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire encore dans nos vies ce matin. Il veut nous donner cette force de pardonner. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre 2 minutes. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? Encore, mais que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Reçois l'amour du Père. L'amour du Père qui change nos vies. L'amour du Père qui peut tout, qui peut restaurer.